Il est 6h du mat' et on est de retour pour réveiller le BTP. Moi, c'est Nicolas Charton, communicant dans le bâtiment. Si l'écosystème du BTP, les méthodes de gestion de professionnels du bâtiment et le témoignage d'acteurs sur leur parcours et ceux qui les ont amenés à œuvrer sur le BTP t'intéressent, alors tu es au bon endroit. On va venir mettre en lumière différentes thématiques avec des experts du métier. Maintenant que tu en sais un peu plus, choisis ta boisson chaude préférée et profite de l'épisode qui va suivre. Bonjour à tous, il est 6h du bat et on se retrouve ce matin dans un nouvel épisode, un épisode dont le thème va sûrement parler à la majorité des personnes qui écoutent ce podcast. On va aborder la thématique vitale, la gestion de la trésorerie et les délais de paiement sur le secteur BTP. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Olivia Chevalier, chef de produit chez EBP, confrontée chaque jour à cette thématique au quotidien avec ses clients. Salut Olivia.
Bonjour Nicolas.
Et Olivia, comment tu vas ?
Bah écoute, ça va très bien et je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour ce podcast.
Avant de démarrer un peu cette partie vraiment confrontée à la gestion de trésorerie et le délai de paiement, je vais te demander de te présenter un petit peu ton parcours et ce qui t'a amené à accompagner les entreprises BTP au sein de BP qui est sur plusieurs secteurs aussi, mais toi tu as choisi le BTP du coup.
Eh bien, écoute, avec plaisir. Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Olivia Chevalier. Donc moi, j'ai eu un peu mille et une vies, si on peut dire. J'ai fait vraiment beaucoup de choses différentes niveau expérience professionnelle dans ma vie. Et j'ai notamment démarré ma vie professionnelle chez un constructeur de maison, ce qui m'a permis en fait de toucher pour la première fois au secteur du bâtiment. C'est un milieu que je ne connaissais pas du tout à cette époque-là. Et quelques années plus tard, je me suis retrouvée donc chez EBP, rien à voir, édition de logiciels.
Ouais.
Par contre, j'ai eu la chance et l'opportunité du coup, d'intégrer ce poste de chef de produit sur les logiciels destinés aux professionnels du bâtiment, ce qui m'a permis du coup, de retoucher en fait, à ce secteur que finalement j'apprécie beaucoup de manière très naturelle. Voilà, c'est un secteur qui m'a tout de suite intéressée et moi-même, je suis très fan de travaux et tout ça, donc c'est vrai que ça me correspond bien aussi.
Okay.
Du coup, dans mon quotidien, j'essaye effectivement d'accompagner les artisans dans tous les aspects de gestion en fait, de leur entreprise, même au-delà de l'aspect logiciel, même si on sait que le logiciel, voilà, c'est un peu aussi
un
élément central tout à fait de la gestion d'entreprise. Mais on fait aussi beaucoup de contenu, beaucoup de bonnes pratiques, de conseils, etc. sur la gestion d'entreprise au global.
Ok, très belle introduction. Donc du coup, oui, en effet, un secteur, on pourrait se dire, les éditeurs de logiciels sont souvent un peu hors sol comparé aux secteurs pour lesquels ils sont prestataires. Mais du coup, toi, t'avais vraiment cette expérience BTP, t'avais déjà eu un peu l'envers du décor, comment ça se passait là, dans une entreprise, du coup, un constructeur de maisons individuelles.
Ouais,
et donc, tu savais, et encore plus dans la maison individuelle actuellement, je trouve chez les constructeurs actuellement, il y a un gros sujet qui est la partie paiement, trésorerie, notamment dû à pas mal d'éléments contextuels, hein, les augmentations des prix, la difficulté à avoir les financements et autres. Pourquoi, à ton avis, et selon ton expérience aussi, selon ce que tu vois au quotidien, c'est aussi problématique les délais de paiement? Et spécifiquement dans le BTP, tu vois, pour le coup, moi, j'ai vu d'autres secteurs aussi, et je trouve que dans le BTP, c'est vraiment un peu une épée de Damoclès qui est à chaque fois sur la tête de l'entrepreneur BTP, ce délai de paiement, et ça impacte forcément toute la gestion de l'entreprise. C'est quoi ton opinion là-dessus? Comment ça se fait que c'est aussi problématique?
Alors, c'est vrai que sur la partie BTP, on voit que c'est vraiment un sujet qui ressort quand même un peu plus que dans d'autres secteurs potentiellement. Et moi, à mon sens, ça s'explique par plusieurs facteurs. On a déjà une complexité un peu plus élevée au niveau de la gestion de trésorerie, puisque qui dit travaux dit achat de matériaux, gestion de la main-d'œuvre, des équipements, etc. Chose qu'on n'a pas forcément dans des entreprises qui ne touchent pas à ce domaine d'activité. Comme tu l'as dit, on a eu aussi toute la question des variations de prix, là, qui a été très très forte ces deux dernières années, même si là on voit que voilà, ça commence un peu à se stabiliser aussi, et heureusement, parce que les problèmes de variation et d'approvisionnement, ça a été vraiment une période aussi qui a beaucoup compliqué les choses pour le BTP. Et ça fait aussi potentiellement des dépenses imprévues. Ça et aussi tout ce qui va être imprévu lié au chantier, hein, parce que on sait voilà, les intempéries, les absences, la difficulté aussi des fois à recruter, etc. ça peut générer des coûts supplémentaires et ça peut aussi bah, venir entamer la trésorerie des artisans. Ouais. Y a un autre aspect, à mon sens aussi, qui est assez important et on voit que c'est beaucoup ressorti là, typiquement dans le dernier baromètre Artisanté qui a été fait par la CAPEB. Okay. Il y a vraiment une lourdeur et une complexité administrative ouais. Et on sent que ça pèse vraiment de plus en plus sur le moral des artisans, notamment pour ceux qui travaillent beaucoup aussi avec les structures publiques. Mmh. De l'État, et on sait qu'il y en a beaucoup hein, qui travaillent ouais, avec toutes les entités publiques, quelles qu'elles soient, que ce soit des mairies, des collectivités, etc., puisque les process de paiement des organismes publics, mmh. voilà, c'est vraiment quelque chose qui est assez complexe, ouais. et les budgets publics, etc., voilà, ça reste...
Oui, ça reste complexe, non, mais c'est clair que ouais, bah, ouais, tu ouais, sais ce qu'on fait. Dit, hein, c'est un élément que tu abordes, mais tu sais ce qu'on dit sur l'État, hein, on dit souvent que c'est le plus mauvais payeur, hein, c'est le,
tout à fait,
c'est quand même
exactement.
Celui qui paye en dernier quand tu es dans des marchés. Après, c'est vrai que au-delà du fait qu'il y ait ces délais de paiement, moi, je trouve que c'est vraiment de... Bah, qu'est-ce qui fait que tu payes, par exemple, à 90 jours, tu vois ? Je veux dire, tout le monde est conscient un peu de ce sujet-là. Des fois, tu as des paiements à 30 jours, des paiements à 60, 90 jours. Mais 3 mois de trésorerie dans une vie d'entreprise, c'est quand même... Quand tu es une jeune entreprise ou quand tu es dans un milieu où il y a énormément de variations, des imprévus et autres... Enfin, c'est déjà énorme en termes de gestion. C'est vrai que ça impacte vraiment ça, ces délais de paiement. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas depuis le temps à... Est-ce que c'est quelque chose qui est immuable au secteur, tu penses, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut évoluer et comment on peut le faire évoluer et sensibiliser à ces bonnes pratiques de paiement et de gestion et d'anticipation, enfin, des choses qui pourraient aussi simplifier la vie et l'aspect mental aussi pour les dirigeants du BTP, quoi.
Bah, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très ancré, en fait, qui est très ancré dans le, surtout pour les administrations, effectivement, qui est vraiment très ancré dans la manière de faire et qui est historique, en fait, un peu. Après, à mon sens, rien n'est immuable, mais on sait que de toute façon, dès qu'on touche un peu à la conduite du changement, c'est quelque chose qui prend énormément de temps, qui est très compliqué aussi. Donc, c'est sûr que je pense qu'il y a des choses qu'on pourrait éventuellement mettre en place aussi pour sensibiliser un peu mieux les différents acteurs, en fait, à payer leurs factures un peu plus vite. Ouais. Mais c'est sûr que pour moi, ça reste quand même quelque chose qui va encore prendre énormément de temps. Mm-hmm. Et finalement, c'est peut-être plus du côté de l'artisan où il faut essayer de maximiser les choses. Ouais. On peut notamment... envisager de passer par des outils un peu plus intelligents. Maintenant, on a des solutions de paiement en ligne. Ouais. On a des choses pour automatiser les relances. On peut aujourd'hui envoyer un lien de paiement directement avec une facture, ce qui peut aussi permettre de réduire grandement le temps de paiement de la facture. C'est un sujet aussi, je pense, qui est peut-être pas assez démocratisé, même si on sait qu'il y a certains acteurs, typiquement les syndicats du bâtiment ou ce genre de choses, qui militent aussi beaucoup sur ce sujet-là. Mais bon, je pense que malheureusement, c'est pas forcément une grande priorité aussi, parce que bon, il y a tellement de sujets à traiter au sein du gouvernement. Mmh, mmh. C'est sûr que voilà, ça reste. Mais bon, c'est un sujet qu'on pourrait traiter, je pense, de manière un peu plus large, pour effectivement sensibiliser aussi. Et surtout pour moi la base de toute chose c'est aussi de former les futures générations même si on sait qu'aujourd'hui les jeunes artisans on voit l'évolution aussi des nouvelles générations qui sont beaucoup plus connectées, beaucoup plus enclins à justement utiliser des outils un peu plus automatisés et ce genre de choses mais je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi dans la formation des jeunes pour vraiment leur donner les bonnes pratiques tout de suite de la gestion de trésorerie et que ceux qui souhaitent se mettre à son compte partent vraiment avec une bonne base aussi pour commencer à gérer leur entreprise, quoi.
Ouais, bien sûr.
Après, il y a aussi pour moi tout l'aspect réglementation, mais là vraiment on parle d'un monde idéal entre guillemets où ça serait quand même très très bien, je pense, de pouvoir assurer un contrôle un peu plus efficace de l'application des réglementations sur les délais de paiement, notamment pour les clients publics. Mais là vraiment, je pense que ça demande quand même des moyens et aujourd'hui malheureusement, je pense que encore une fois, ce n'est pas forcément une priorité pour le gouvernement. Néanmoins, c'est sûr que pour sensibiliser les acteurs, notamment les acteurs publics, on le sait, qui, comme tu l'as dit, sont les plus mauvais payeurs, ça serait quand même super chouette de pouvoir peut-être mettre en place des contrôles un peu plus fréquents, par exemple. Mais bon, là, on parle vraiment d'un monde parfait.
Là, on est sur presque la, le deuxième ou le troisième étage de cette pyramide qu'on essaye de vulgariser aujourd'hui. Moi, je pense que, comme tu dis, y a cette notion de... Bah, y a une génération qui a été habituée à fonctionner comme ça aussi, je pense, et qui, du coup, bah, pas subi un peu la chose, mais a tellement d'autres choses à gérer que, bah, en effet, ça devient plus une priorité. Sauf que ça devient vraiment... Je trouve que ça devient vraiment un goulot d'étranglement dans ton activité quand t'as une gestion un peu... Bah, ça arrive pas à une gestion mois par mois, hein, enfin, sauf vraiment en cas de grosses difficultés, mais de se dire que tu commences un chantier un jour N, donc par exemple aujourd'hui, et tu finis le chantier dans 6 semaines, on va dire, un chantier un peu classique, et après ces 6 semaines, tu reçois le paiement que dans 90 jours, mais entre tout ce temps-là, bah, tu as dû payer 3 fois le salaire, parce que du coup, il y a quand même 3 fois le salaire, il y a 3 mois qui passent, enfin, c'est... Je trouve que, bah après, moi, je suis un peu nouveau sur ce secteur et peut-être un peu naïf aussi, mais enfin, pour moi, ça me paraît tellement aberrant et même ça me paraît presque irrespectueux, presque des fois, de payer à 90 jours. Mais en même temps, t'es obligé de l'entendre parce que du coup, ça veut dire qu'il y a d'autres secteurs qui payent à 90 jours et du coup, c'est un peu un cercle vicieux où tout le monde se dit, bah, de toute façon, si t'es sur un chantier où le financeur bah, paye d'abord le premier étage à 90 jours, il payera le second étage à 90 jours, et donc du coup, il y a ce cercle qui est déjà enclenché, et du coup, c'est là où faut être très attentif et avoir une bonne gestion et se dire, bah, j'entame ce chantier-là, il faut que je puisse, du coup, en niveau trésorerie, attendre qu'il y ait le paiement. Enfin, c'est toute une gestion qui se met en place, et ça, c'est clair qu'il faut sensibiliser et faire en sorte que ça soit déjà des choses qui sont anticipées. Moi, j'ai vu des entreprises de bâtiments qui avaient plutôt bien pris la chose, qui avaient vraiment beaucoup de trésorerie en avance, qui vraiment avaient ce seuil, c'était presque un peu, pas maladif, mais il y avait un contrôle, il y avait un chiffre de trésorerie à jamais dépasser, parce que du coup, on savait que c'était un peu le sas de sécurité. Ça permet aussi, au niveau de la comptabilité, au niveau de la gestion, être un petit peu plus libéré aussi de ce poids-là, et puis de pouvoir gérer justement tous ces autres imprévus de chantier que tu vas retrouver au quotidien, parce qu'il y a tellement de choses à gérer sur le chantier, quoi. Mais si on se projette un peu, comment on peut sensibiliser, tu vois, les acteurs à mieux se comporter et à mieux gérer cette importance des délais de paiement, inciter à adopter des pratiques de paiement plus rapides et plus justes aussi pour tout le monde, tu vois, que tout le monde soit pas en souffrance là-dessus, parce que j'imagine que là, la personne qui est payée à 90 jours, il fait pas de bon cœur de dire, bah, je vais payer le sous-traitant à 90 jours aussi. Il y a un moment, il doit se dire, si moi je subis ça, je vais pas le faire à quelqu'un d'autre, tu vois. Enfin, ça doit forcément te passer par la tête. Comment on fait pour...
Bah, effectivement, donc il y a déjà cet effet de cascade, comme tu le dis, où au final, si le premier paiement arrive à 90 jours, bah, derrière, ça impacte aussi tout le reste de la chaîne. Après, je pense qu'il y a aussi beaucoup de délais. Alors déjà, 90 jours, même si c'est rude, ça reste des délais de paiement réglementaires aussi, ouais. Qui peuvent être imposés. Hein, ça,
c'est aussi pour ça. Les charges aussi, des fois, c'est là que c'est imposé, quoi.
Tout à fait. C'est aussi pour ça que bah, certains payeurs imposent ces conditions, parce que ça reste... Après, le vrai souci, c'est qu'aujourd'hui, il y en a qui indiquent 90 jours, mais qui, pour autant, ne payent pas forcément à 90 jours en plus. Mmh. Là, par contre, ça reste vraiment problématique. Je pense que la base de tout, c'est vraiment de bien cadrer ces conditions de règlement. Quand l'artisan en a la possibilité, bien sûr, hein, parce qu'effectivement, ouais. Quand il répond à un appel d'offres, où là, c'est imposé par la structure, bon, il n'a pas forcément le choix, mais en tout cas, s'il le peut, la première bonne pratique pour moi à appliquer, c'est vraiment de bien cadrer ses conditions de règlement et de bien les faire afficher sur ses documents, et de bien communiquer aussi auprès de ses clients pour qu'ils aient bien conscience du délai et qu'ils se retrouvent pas et qu'ils puissent s'organiser, en fait. Ils ont besoin de temps, par exemple, pour libérer des fonds, on sait que ça peut être le cas, bah, notamment chez des clients particuliers qui passent par des prêts ou autres. Il peut y avoir des délais de déblocage pour ceux qui utilisent des aides aussi. Voilà, souvent les aides, ça se fait sur facture. Ça oblige aussi l'artisan à facturer son chantier, et malheureusement, après, là, il est contraint d'attendre que l'administration valide l'offre d'aide. On sait qu'il y a beaucoup là, de sujets aussi autour de MaPrimeRénov, notamment. Voilà, c'est typiquement des aides qui sont beaucoup utilisées aujourd'hui pour tout ce qui est rénovation. Et ça peut rallonger les délais de paiement. Et ça, malheureusement, on ne peut pas trop y faire grand-chose. Donc, quand l'artisan en a la possibilité, voilà, mon premier conseil, ça serait vraiment de bien cadrer ses conditions de règlement. Après, il y a vraiment des basico-basiques, on va dire, de la gestion. On a, par exemple, le fait de toujours demander un acompte. Ça permet aussi d'avancer les premiers frais, de sécuriser le chantier aussi au passage, hein, ça c'est non négligeable. Ouais. Donc c'est tout bénéfice vraiment pour l'artisan. On va tout ce qui va avoir facturation à l'avancement également.
Ouais.
Donc ça c'est le fait de facturer son chantier en fait en plusieurs étapes, plutôt pour les gros chantiers, mais finalement ça peut aussi se faire pour des chantiers de moindre envergure, on va dire. Mm-hmm. Il suffit juste de se définir des jalons. Donc sur les gros chantiers, par exemple de construction de maisons, je prends cet exemple parce que pour le coup je le connais bien comme j'y ai travaillé. On va avoir tous les grands jalons, c'est-à-dire la mise hors d'eau, la mise hors d'air, etc. Ouais. Où là il y a des déblocages de fonds. Ça permet de d'étaler vraiment les paiements. Ça a aussi un avantage en plus pour le client de l'artisan, puisque lui, ça lui permet de budgétiser aussi ses dépenses et de pouvoir étaler aussi ses paiements. Donc finalement, la facturation à l'avancement, c'est quelque chose qui est peut-être pas suffisamment utilisé, même sur des petits chantiers, puisque ça peut aussi simplifier les choses pour le client. Et je pense que ça pourrait aussi aider à réduire les délais de paiement.
C'est une bonne première pratique et une bonne initiation aussi à une gestion un peu plus flexible de sa trésorerie, c'est que si t'as un bon échelonnement et que tu peux le positionner sur chaque chantier, parce qu'en effet, si tu commences avec cette pratique-là, avec cette méthode-là sur des tout petits chantiers et que au fur et à mesure, avec le succès de ton entreprise et le bon travail que tu fais, tu te retrouves à faire des plus gros chantiers et que tu arrives à imposer ces conditions d'échelonnement, paiement tu vois, à 50%, 75%, les acomptes, c'est des trucs qui peuvent t'aider aussi à pouvoir bien lisser toute cette partie à la fois flux de trésorerie, quoi, clairement, sortie, entrée d'argent sur tes différents chantiers. Et c'est vrai que c'est un truc qu'il faut, je pense, pouvoir mettre en place très très vite, comme ça, après, c'est un truc que tu peux, c'est une méthode que tu peux imposer aussi auprès de tes clients. Après, je sais bien que là, tu vois, on parle de manière globale sur tout un secteur. Il y a des parties du secteur où tu ne pourras pas le faire parce que, comme tu dis, ça rentre dans des cahiers des charges publiques ou dans des appels d'offres qui sont vraiment cadrés. Et pour le coup, tout le monde est géré à la même enseigne. Mais là, moi, j'aspire à avoir une audience assez large sur le secteur. Donc, il n'y a pas que des gens qui font avec du public. Il y a aussi des gens qui font avec de l'artisan, avec du petit particulier, avec du professionnel, avec du tertiaire, enfin, avec pas mal de choses. Et dans vos chantiers, je pense que le plus simple et le plus rapide pour avoir justement les paiements, c'est d'avoir cette notion d'échelonnement de paiement, paiement à l'avancement et autres. Mais comme tu as dit, il y a un truc important que tu as dit, c'est que, en fait, on parle d'un délai qui est théorique, nous, là, depuis tout à l'heure.
Oui.
Mais après, c'est aussi les personnes qui sont au bout du cycle comptable et qui doivent payer à 90 jours. Déjà, s'ils peuvent payer à 90 jours, c'est bien parce qu'on sait très bien que, en fait, tu sais, quand tu reçois ta facture, c'est échéance, je sais pas moi, au 30 mars, par exemple. Bon, il est possible que tu fasses 3 jours de retard, tu vois, ça arrive d'avoir un retard sur une facture. Sauf que quand tu as un retard à 90 jours, le retard, il est monstrueux, en fait. C'est un retard qui est plus vraiment un retard. Même si tu as l'impression d'avoir que 3 jours, tu te dis que tu as payé 3 mois et 5 jours après la fin du chantier, quoi. Donc c'est monstrueux,
après, je trouve. Je pense que ça va quand même que... Enfin, on peut se rassurer en se disant que les délais de paiement à 90 jours, ça reste quand même, je pense, globalement à la marge. En tout cas, sur les chantiers des clients particuliers, de manière générale, les délais de paiement sont quand même plus courts.
Oui.
Maintenant, c'est vrai que pour les entreprises qui font beaucoup d'appels d'offres et de travaux publics, ça peut devenir vraiment, vraiment problématique, c'est sûr, quoi.
Je parle des 90 jours parce que c'est vraiment un truc qui m'a choqué, vraiment, qui m'a marqué quand c'est les premiers chantiers que j'ai suivis en termes de gestion de trésor et autres. Je me suis dit, mais 90 jours? Donc, c'est-à-dire, mais un trimestre avant de recevoir le fruit. Heureusement que, tu vois, sur un trimestre, tu ne fais pas qu'un seul chantier.
Oui. Après, il y a aussi, effectivement, une gestion des différents flux avec les différents chantiers qui sont réalisés, etc.
Qui permet de ventiler un peu tout ça, quoi.
Exactement. C'est vrai qu'il faut, ça, c'est une vraie contrainte aussi pour les entreprises du bâtiment, c'est qu'il faut pouvoir avoir la visibilité aussi de ces flux de trésorerie pour pouvoir... anticiper aussi au maximum, parce que bah, en plus de tout ça, il y a aussi les imprévus qui vont se rajouter, etc. Et malheureusement, il y a aussi encore beaucoup d'entreprises du bâtiment, bah, comme tu l'as bien dit aussi auparavant, qui finalement se prévoient aussi une trésorerie énorme de côté pour pouvoir jouer quasiment le rôle de la banque et avancer en fait les frais. Ouais. Et c'est vrai que après, si l'entreprise arrive à se maintenir, on va dire, avec ce mode de fonctionnement, bah, j'ai envie de dire, là, oui, on peut vraiment parler de très bonne gestion et ouais. d'optimisation vraiment des flux de trésorerie, parce que dans ces conditions, réussir à justement à gérer ces flux de trésorerie comme ça, bah là, franchement, chapeau, avec des ouais. délais de paiement qui sont des fois très, 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 très longs. Mais c'est vrai que ça nécessite vraiment d'avoir une très bonne visibilité. Voire même peut-être, je pense, d'avoir une personne dédiée qui s'occupe de la gestion de trésorerie, en plus du comptable et autres, pour être sûr de ne pas se retrouver dans le rouge. Et je pense que ça reste quand même un facteur quand même de stress aussi pour les artisans, et ça, c'est vraiment problématique.
Oui, je pense que pour moi, c'est quelque chose vraiment qui impacte moralement le secteur, encore plus dans un contexte économique actuellement où c'est un peu morose sur certaines catégories pro du secteur, tu vois, par exemple les constructeurs.
Ouais, ouais.
Le financement soit de plus en plus compliqué à avoir, ça retarde les débuts de chantier, il y a même des chantiers qui se font pas, ça ralentit l'activité. Et du coup, tu te poses la question de comment, justement, avec un flux de trésorerie entrant moins conséquent qu'habituellement, que ce qu'on a pu vivre sur les deux dernières années, les deux années post-Covid, qui ont été vraiment exceptionnelles, on va pas se mentir, pour le secteur bâtiment, c'est peut-être dû justement à un retard et à des chantiers qui ont été déplacés, qui ont été du coup mis à la suite. Donc c'était un peu.
C'est le petit effet qui se coule.
C'est ça,
du
c'était
COVID,
un peu le. C'était un peu un mirage sur l'activité, je pense. Ça a un peu. Pas berné le secteur, mais ça l'a mis dans une dynamique qui n'était peut-être pas celle qui était réelle si on avait été sur 4 ans, quoi. Et du coup, maintenant, c'est compliqué aussi pour certains acteurs de pouvoir anticiper tout ça. Ça serait quoi si on va vraiment sur du pratico-pratique? Pour toi, de ce que tu as pu voir, les bonnes premières pratiques en termes de gestion de flux de trésorerie et en termes de, tu vois, d'anticipation de tout ça, de gestion de ce risque, comment on fait, quelles sont les bonnes pratiques pour améliorer justement cette partie-là, santé financière et gestion de flux de trésorerie dans une entreprise? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place à partir de demain ou voire dans les mois à venir dans une entreprise bâtiment qui subit un peu tout ce contexte et toute cette partie flux de trésorerie compliquée?
Du coup, il y a des choses qu'on a déjà un peu évoquées autour de la facturation. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un peu les basico-basiques, on va dire. Il y a aussi toute la brique relance, parce que ça, c'est vraiment une notion archi-importante qu'il ne faut vraiment pas délaisser, c'est-à-dire ne pas laisser traîner les relances clients, en fait, tout simplement. Suivre ces factures, ces délais de paiement et en fait tout simplement aller chercher l'argent. C'est très brutal de dire ça comme ça, mais les relances, pour moi, ça reste un aspect super important de la vie d'une entreprise. Il y a toute la brique aussi pour moi, relation avec les fournisseurs, qui va être assez importante, parce que effectivement, encore une fois, on l'a dit, il y a un effet de cascade. Donc pour moi, c'est très important aussi que l'artisan arrive à entretenir des bonnes relations avec ses fournisseurs pour pouvoir négocier s'il se retrouve vraiment coincé à un moment donné et qu'il ne peut pas avancer la trésorerie, etc. Là, on est vraiment sur des bonnes pratiques, on va dire, liées un peu à la facturation. Et après, effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place dans la gestion des flux de trésorerie. Donc, avoir une personne vraiment en charge de ça, c'est vraiment l'idéal, on va dire, même si on sait qu'aujourd'hui, ça reste quand même beaucoup d'externalisation auprès de l'expert comptable. Mais dans ce cas-là, je pense qu'il faut vraiment, c'est pareil, trouver un expert comptable qui permette à l'artisan d'avoir une bonne visibilité de sa trésorerie, qui l'alerte, etc., qui soit vraiment dans une bonne dynamique de travail avec son artisan pour vraiment avoir un suivi presque quotidien, en fait, pouvoir donner la possibilité à l'artisan de suivre sa trésorerie de très près.
Et de se décharger un peu de cette partie-là aussi, d'avoir quelqu'un qui le fait pour toi et de te dire, j'ai quelque chose qui est mis en place pour justement m'alerter, avoir des indicateurs et autres. Et moi, je peux me concentrer sur la bonne réalisation des chantiers et justement limiter les autres imprévus que les imprévus comptables, du coup.
De toute façon, on sait que voilà, la base du métier de l'artisan, c'est pas l'administratif. C'est aussi ce qui fait, je pense, c'est aussi un facteur d'aggravation, entre guillemets, des délais de paiement, etc. Parce que bah, voilà, on sait que la gestion de trésorerie, l'administratif et tout ça, c'est vraiment pas le cœur de métier de l'artisan. Et que lui, l'artisan, c'est son chantier qui l'intéresse. Ouais. Être suivi par un expert comptable, ça peut être très intéressant pour justement bah, se décharger et pour autant quand même avoir une gestion de trésorerie qui est suivie de près aussi par une personne qui a en plus la compétence pour faire ça. Pour les plus aguerris, on peut aussi établir un plan de trésorerie. L'idéal, c'est vraiment un plan de trésorerie sur un an, c'est-à-dire lister tout ce qui rentre et qui sort financièrement pour identifier les périodes éventuellement de tension. Alors, on parle, bien sûr, on ne peut pas planifier à l'avance les différents chantiers qu'on va avoir, même si c'est quelque chose qui est faisable quand même, je pense par exemple au trimestre pour certaines entreprises, etc.
Au moins tout ce qui est sorti, voilà. Quoi. Au moins avoir la partie sortie vraiment claire, exactement. Définie pour ne pas être surpris d'un moment être sur une grosse sortie ou une.
De toute façon, il y a toujours la partie charge fixe qu'on peut toujours anticiper. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut suivre de près pour pouvoir les budgéter au mieux et pas se retrouver, anticiper ces dépenses-là. Et après, comme ça, quand viendront s'y ajouter effectivement éventuellement les retards de paiement, les imprévus, etc., ça permettra quand même d'être plus réactif que si on n'a pas anticipé les charges à la base et que là on se retrouve vraiment pris à la gorge quoi. Et après on a aussi tout plein d'outils quand même un peu plus intelligents, connectés aujourd'hui. On peut avoir de la synchronisation bancaire par exemple qui permet vraiment d'avoir une vision en temps réel de la santé financière, puisque là la brique, on va dire, gestion de trésorerie et facturation est reliée directement avec la banque. Et là on obtient quand même un outil de suivi assez performant, et vraiment c'est quelque chose, je pense, qui peut donner de la visibilité et permettre de rassurer, je pense, le professionnel du bâtiment, puisqu'il aura vraiment le sentiment d'être
Au jour le jour, contrôle. Avoir une vision claire et nette
de ce qu'il y a vraiment sur le compte. Tout à fait, de contrôler sa trésorerie et de pouvoir limiter aussi au maximum la casse, entre guillemets, s'il y a des imprévus, etc. Les modes de paiement aussi, on l'a dit, pour moi, il faut vraiment, traditionnellement, alors, je ne parle pas des chantiers publics parce que là, c'est pareil, c'est très encadré, etc. Mais sur les autres chantiers, traditionnellement, on a tous fait intervenir un artisan chez nous et on lui a fait un chèque.
Un chèque. Quand il veut, quoi, un peu.
Voilà, voire même un chèque qu'on doit envoyer par la poste. Donc, la facture, on la reçoit, on ne s'en occupe pas tout de suite. Et puis après, on oublie un peu. Et du coup, on se retrouve à devoir envoyer un chèque un peu en catastrophe avec les délais aussi de la poste, entre guillemets. Ça rallonge aussi, ça peut rallonger de quelques jours les délais, plus le temps d'encaisser délais, derrière le chèque, le temps qui passe en banque, etc. Alors qu'aujourd'hui, encore une fois, on a vraiment des solutions qui sont beaucoup plus automatisées. Voilà, des liens de paiement en ligne, etc. Et c'est quelque chose qui n'est pas encore, je pense, suffisamment démocratisé dans le bâtiment, mais avoir recourir à des solutions de paiement en ligne, pour moi, c'est vraiment l'avenir aussi. Du bâtiment pour pouvoir justement réduire un peu les délais de paiement. Et de toute façon, on est toujours dans cette question de la digitalisation aussi du BTP. Et je pense qu'il faut vraiment que le bâtiment prenne ce virage et se digitalise aussi dans ses moyens de paiement pour pouvoir réduire un peu toutes ces problématiques qui existent aujourd'hui, quoi.
Se mettre les bons outils et les bonnes armes aussi de leur côté. Donc, si on résume vraiment, on fait un petit résumé à la fin comme ça, si les gens veulent aller directement straight to the point aux trois bonnes pratiques, il y a l'étalonnement, l'échelonnement aussi des flux, donc savoir planifier, avoir de l'entrant, avoir de l'acompte, avoir des bilans de situation aussi, d'avancement, facturer à l'avancement, ce qui est déjà un peu fait sur certains aspects, mais bon, il y a peut-être des personnes qui ont ce sujet-là, qui ont cette problématique et qui n'ont pas encore mis en place ce genre de pratique. Donc, échelonner les paiements, faire en sorte que les flux soient ventilés aussi sur plusieurs mois et sur plusieurs chantiers. Ensuite, la gestion automatisé via des outils qui te permettent d'avoir du coup de réduire un peu cette friction au moment du paiement, de l'envoi de la facture, du règlement et de la relance aussi, parce que c'est comme on dit, enfin moi je viens d'un milieu plutôt commercial et on disait que l'argent était dans la relance souvent, puisque on n'a pas forcément l'argent, le règlement au premier envoi de facture. Et puis ensuite essayer de se mettre à la page et de voir ce qui est possible d'utiliser comme outil et comme solution de gestion externalisée ou interne pour avoir cette vision au jour J de l'état financier de sa boîte, pour pas avoir ces surprises et puis être toujours dans une gestion un peu plus light en termes de santé mentale, de stress et d'anxiété, même si il y aura toujours ces aspects contextuels, économiques ou chantiers qui viendront impacter. Mais si toi, tu, en tant que gestionnaire, tu arrives à avoir ce recul nécessaire et ce recul que tu as réussi à mettre en place via une bonne gestion et des bonnes pratiques, ça t'aidera déjà à voir un peu plus clair et à sortir un peu la tête de l'eau de cette partie administrative et financière, gestion de trésorerie, qui n'est pas forcément ton cœur de métier, puisqu'à la base, toi, tu as choisi le BTP pour le chantier, et du coup, tu peux te concentrer sur le chantier quand t'as vu un peu tout ça. Est-ce que c'est bien résumé pour toi, Olivier ? Est-ce que je t'ai fait un résumé plutôt OK de ces trois bonnes pratiques que tu nous as gentiment présentées là ce matin ?
Pour moi, tu as tout dit. Hein. En fait, le fin mot, c'est de passer dans l'anticipation, de sortir de la réaction et de passer dans l'anticipation pour finalement pouvoir aussi optimiser tous ces aspects-là de la gestion de l'entreprise.
C'est anticiper, c'est un peu le mot. C'est le mot, quand tu le dis dans le secteur BTP, il y a un peu une illumination qui vient autour. J'ai l'impression qu'il y a un aura derrière ce mot qui est assez incroyable. Mais en fait, comme je l'ai dit plusieurs fois dans d'autres épisodes, je pense que tu ne peux pas tout anticiper dans le bâtiment. Mais par contre, les choses que tu peux anticiper, il y a des choses que tu peux faire, notamment cette partie-là, notamment d'autres sujets. En fait, ça te permet d'avoir ce recul et cette aisance à gérer tout ce que tu ne peux pas anticiper, justement. Et du coup, tu vas pas... T'es déjà sur un secteur qui est assez challengeant au jour le jour, puisqu'il n'y a pas un chantier qui est le même, il n'y a pas un chantier qui peut se passer de la même façon. Donc, si tu peux t'éviter ce genre de stress supplémentaire sur des sujets que tu peux anticiper, justement, qui ont été prouvés, qui ont été travaillés, réfléchis par d'autres acteurs, qui t'ont fait le boulot, justement, d'anticipation, si toi, tu peux juste appliquer cette anticipation, tu vas te sortir déjà une belle épine dans le pied, je pense, de ton côté, au niveau de la gestion, quoi.
Exactement, c'est très bien résumé.
Trop cool. Mais écoute, c'était un plaisir de t'avoir ce matin. On va arriver sur la fin de l'épisode, et vu que vous écoutez tous assidûment le podcast et vous savez très bien quelle question va arriver, Olivia, tu ne vas pas y échapper. Je vais te demander qui, si tu avais une personne de cet environnement BTP ou ailleurs qui pourrait apporter vraiment sa pierre à l'édifice de 6 heures du bat, qui t'aimerait voir venir réveiller le BTP ici ?
Alors, j'ai une personne en tête, forcément. À vrai dire, j'en ai même deux.
Il va falloir réduire le nombre de personnes que vous recommandez, parce que je n'ai même plus la possibilité de tous les inviter. Mais je t'écoute et je prends les deux quand même.
Après, peut-être que tu auras déjà entendu ces prénoms dans les épisodes que tu as déjà enregistrés, mais qui n'ont pas été diffusés. Mais en tout cas, moi, la personne que je voulais aussi mettre un peu en lumière, c'est Jean-Baptiste Maillot de Praxedo. Praxedo, c'est une solution, donc on reste un peu dans le domaine, hein, parce que voilà, c'est aussi moi, mon secteur, donc voilà. Ouais. Mais c'est une solution de gestion des interventions et qui est franchement super chouette et qui du coup est pour le coup très très utile dans le bâtiment, puisqu'on sait qu'il y a vraiment énormément de métiers où il y a de la gestion d'intervention, de maintenance, etc. Ouais. Et ils ont vraiment une vraie connaissance et une vraie expertise sur le marché de l'intervention. Et je pense que il pourrait faire une très très bonne intervention dans ton podcast.
Ok, très cool. Je note cette première personne, vraiment axée du coup plutôt service logiciel. Est-ce que tu as ta deuxième personne qui ça serait ?
Alors oui, du coup, la deuxième personne que j'ai en tête, et là c'est plus le coup de cœur, on va dire, entre guillemets, ça serait Stéphane Aria, qui fait beaucoup de contenu, du coup, notamment sur TikTok. Et j'aime beaucoup sa spontanéité, en fait. C'est vraiment l'artisan dans toute sa splendeur, on va dire, qui présente les choses de manière très claire, directe, et voilà. Et j'aime beaucoup l'approche qu'il a dans son contenu.
Trop cool. C'est une très belle suggestion, et en plus, comme tu l'as dit, en fait, Stéphane est passé il y a très peu de temps sur le podcast. Donc l'épisode est disponible, je vous le mettrai en description. Mais par contre, je réinvite avec plaisir, Stéphane, si tu veux revenir réveiller le BTP, je t'invite avec plaisir. On avait passé un bon moment au moment de l'enregistrement. Donc si tu veux revenir, avec plaisir. Et je pense qu'on aura l'occasion de se croiser très vite de toute façon. Donc Stéphane Aria, je vous mettrai le lien en description de l'épisode. Mais en tout cas, c'était une belle idée. Si tu l'as recommandé, c'est que du coup, il a vraiment ce profil pour réveiller le BTP. Et du coup, il l'a fait avec brio dans l'épisode qui sera disponible. Olivia, c'était un plaisir, comme je disais, de t'avoir ce matin. Vraiment, on a évoqué une thématique qui n'est pas simple, qui n'est pas forcément la plus sexy du milieu bâtiment, mais qui va justement avoir cet impact au quotidien chez les entreprises BTP. Et du coup, réveiller le BTP sans aborder cette thématique, ce n'était pas possible pour moi. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'aborder cette thématique avec moi ce matin.
Bah, merci à toi. C'est un plaisir partagé, en tout cas.
Trop bien. Et puis, on se retrouve très, très vite pour réveiller de nouveau le BTP. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci beaucoup. C'était encore une bien belle occasion de réveiller le BTP. Tu peux d'ores et déjà transmettre de bonnes ondes à notre invité via les liens en description, en parler à tes collègues et sur ton chantier. Et avant de passer au prochain épisode, si celui-ci t'a plu, n'oublie pas de t'abonner au podcast et à nous laisser 5 étoiles. Quant à nous, on se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP.